Cher ami, pouvez-vous nous lire la page 131 de votre roman ?
La boucle permettait de parcourir l'ensemble d'Heimerlind en 2 heures, à condition d'adopter un pas militaire. Max ne m'avait pas indiqué le chemin, mais, ayant été parcouru durant tant d'années, le sentier s'enfonçait avec netteté dans les profondeurs de l'île. Aubergy avait avalé ses 10 km de façon quotidienne, pendant 17 ans, et aurait sans doute pu les arpenter de nuit, sous la tourmente, sans glisser dans le vide. La marche est le poumon des écrivains. Ils trouvent dans la régularité de leurs pas une respiration naturelle, laquelle irrigue le corps et les idées. Chaque jour, le romancier en revenait rose et rasséréné, l'âme purifiée par le vent du large. Moi-même, à l'époque de l'intuition du massacre, je faisais de grandes balades dans Paris, la nuit, pour chercher ou fuir le fantôme du petit Hervé. Il en est des écrivains comme des sportifs de haut niveau ou des grands pianistes. Pour que les mots surgissent, ils doivent contrôler leur quotidien.
La marche est le poumon des écrivains, vous dites. C'est tellement vrai. Alors moi, je suis un tout petit écrivain, mais un grand marcheur. Et c'est vrai que les idées viennent en marchant. Mais je dirais aussi que, moi aussi j'écris le matin, mais quand on arrête d'écrire, on a besoin de se laver la tête. Et donc, marcher est le moment, est la période de transition pour rentrer de nouveau dans la vie réelle.
Je ne saurais pas mieux dire que vous, cher ami. Moi, effectivement, je suis sur mon ordinateur, tout concentré, tout recroquevillé sur moi-même, avec le dos qui commence à se nouer de 5h à 9, 10h du matin ou 11h, sauf quand je viens chez vous. Et l'après-midi, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de m'aérer l'esprit, de ne serait-ce que de détendre tout ce corps. Parce que si on ne fait que de l'écriture, on sera corni. Et puis même, ça ne fonctionne plus, ça ne se balade plus. Il n'y a plus de lien entre le haut et le bas. Et moi, j'ai besoin, surtout pour que les idées me viennent, je fais des grandes marches. Et en fait, en l'occurrence, quand j'ai décidé de faire ces 7 péchés capitaux, il a fallu que j'y trouve mes idées. Et en fait, il s'en est fallu d'une semaine de grosses marches dans Paris, à peu près 6-7 heures par jour, mais vraiment. Et en fait, je partais avec un carnet et je revenais chaque jour avec un péché développé en plus, si je puis dire. J'avais un carnet, je notais, et je me suis fait des grandes trajectoires. Je partais de chez moi dans le centre de Paris, j'allais Porte d'Hilaire, je revenais en passant par Montreuil, je revenais ensuite, passais par le centre de Paris, où j'allais jusqu'à Massy-Palaiseau à pied, avec mes idées qui me venaient en tête. Et pour moi, il n'y a rien de plus efficace, de plus sain que cette marche assez énergique, c'est pas une marche molle. Et en fait, j'oublie où je suis. Il n'y a pas de trajet particulier. Je suis pas là à regarder ce qui se passe autour de moi, mais c'est une espèce de. Ça me met dans une forme de transe, mais une transe saine parce que c'est une transe mouvante.
Alors, dans votre roman, la marche des écrivains se fait sur une île bretonne,
oui.
Que vous avez inventée.
Oui.
Pourquoi cette île ? Pour l'isolement ? Parce que cette histoire n'est permise que parce que personne n'a accès au personnage.
Absolument. Et de toute façon, j'ai un tropisme insulaire. Je passe tous les ans, depuis que je suis né, mes étés dans une île loin, mais une île lacustre aux États-Unis. C'est là que j'écris tous mes livres. Et c'est là où tous les après-midi, je fais ce que j'appelle, on appelle ça là-bas, the loop, parce que c'est une boucle. Et je marche 2 heures. Et en fait, c'est vraiment, un décalque de ce que je fais tous les étés l'après-midi. Mais là, cette île était nécessaire parce qu'il n'y a pas plus romanesque qu'une île. C'est le lieu où tout est exacerbé. L'isolement, le contact avec les éléments, tout est, c'est le lieu romanesque parfait. L'île, c'est à la fois le paradis et l'enfer, c'est la prison et la fuite, c'est l'espoir et c'est le désespoir.
Et sur cette île, il y a Claire, qui est la femme d'Aubergier. Que peut-on dire d'elle ? Elle est bien cette femme, mais elle est au début du livre, elle est quand même assez troublée psychologiquement. On va dire ça.
On
va
peut le dire.
Non, ouais. Ça va s'améliorer, mais c'est une femme assez fascinante. Hein.
Alors, il ne faut pas trop en dire, parce que c'est une femme qu'on découvre et qu'on apprend à connaître au fur et à mesure du livre. Mais on sait que depuis 20 ans...
Elle a un problème, elle a plusieurs problèmes.
Voilà. Mais... Il y a des traumas, et des traumas que son mari n'a pas réussi à, si je puis dire, à soigner, à sauver. Et c'est pour ça qu'il envoie quelqu'un d'autre, qui donne cette mission à quelqu'un d'autre. Mais c'est une femme qui vit effectivement seule avec les fantômes du passé, seule avec le souvenir de cet homme qu'elle a aimé passionnément et qui, au bout d'un moment, en fait, lui a préféré son travail romanesque. En fait, il l'a délaissé au profit de ses propres livres. Et ça on pourra écrire des heures ou parler des heures de ce qu'est d'être le compagnon ou la compagne d'un écrivain, de quelqu'un qui crée.
Je vais vous poser la question.
Oui, ça, il y a encore beaucoup à dire. Et donc, elle est à la fois la vestale, la muse, la potiche, une personne qui je perds mes mots parce que c'est compliqué de trop en dire, mais disons qu'elle est un tout est à faire, tout est à refaire. Elle est à la croisée aussi de sa vie, comme tous les personnages de ce livre. Et en fait, elle va elle aussi renaître en découvrant cet homme qui se fait passer pour son mari. Et on ne sait jamais au bout du compte qui vraiment manipule qui dans cette histoire. Qui ment, qui ne ment pas, qui sait, qui ne sait pas. Et qui est le vrai dindon et quelle est la vraie farce, si je puis dire.
Alors, qui est Max ? Le majordome. Alors lui, il m'a fait un peu peur. Il m'a un peu gêné, ce personnage.
En fait, il est à la fois la position quasiment du lecteur, c'est-à-dire que c'est un personnage de voyeur, c'est un personnage qui ne parle pas, qui connaît tout de l'île, qui est celui qui va sur le continent chercher de la nourriture, qui est celui qui sait piloter l'île, qui est celui qui est le gardien des règles. Voilà, il est le maître.
Oui, parce que dans le contrat où Antoine gagne beaucoup d'argent, l'écrivain raté, il faut suivre des règles.
Absolument. Il n'a aucun contact avec l'extérieur. Ouais. On ne peut pas aller sur Internet. Voilà. Non. Il fallait, parce que sinon, mon histoire ne fonctionnait pas. Et ce Max est un peu un clin d'œil à Eric von Stroheim dans Sunset Boulevard, c'est-à-dire une espèce de personnage hiératique.
Le réalisateur
qui joue un rôle de personnage dans Sunset Boulevard. Et donc, il fallait cette espèce de personnage un peu en retrait, mais qui enregistre tout. Et comme il ne parle pas, on pense qu'il sait tout. Et c'est pas parce que il y a toujours cette chose, quand on voit quelqu'un est très calme, très hiératique et très discret, on se dit « Oh, il n'en pense pas moi ». En fait, ça, c'est pas toujours vrai. C'est-à-dire qu'on prête toujours beaucoup, beaucoup d'intelligence et de subtilité aux gens discrets, mais c'est pas forcément le cas. Parfois, ils ont juste rien à dire. Et donc là, il est là et on ne sait pas exactement son rôle, mais il est là, il observe et petit à petit, on va se rendre compte que c'est pas forcément lui qui pilote tout non plus.
Alors, ma petite réflexion de lecteur, je dirais que c'est plus qu'un roman sur l'orgueil, c'est un roman sur les orgueils. Parce que chacun a le sien et ses orgueils s'entrechoquent. Parce que tous les personnages ont leur orgueil bien, bien défini.
Absolument. Orgueil, fierté. L'orgueil est une chose positive aussi, c'est ce qui pousse. Sans orgueil, les romanciers, les écrivains ne diraient pas au bout de leur projet. Il faut un orgueil démesuré pour arriver à pondre un livre, à le soumettre à un éditeur, à accepter d'aller en parler, ça demande, c'est d'une prétention infinie, en fait. Ça demande.
Mais
heureusement qu'on est là. C'est quand même notre métier de faire ça, parce que l'orgueil, c'est l'ambition, c'est ce qui pousse à se dépasser. Le problème, c'est quand ça vire à la vanité, à la mégalomanie, au besoin de piloter les autres et de vouloir être Dieu le Père. Là, c'est plus compliqué. Mais l'orgueil est ambivalent, il est un Janus, comme mes deux personnages, comme ces deux romanciers. À chaque fois, c'est une histoire de double.
Vous citez Jacques Prévert, l'immense poète. Si j'étais vaniteux, je serais blessé, mais je n'ai pas de vanité, je n'ai que de l'orgueil. Et j'adore. Vous faites bien la différence entre être vaniteux et être orgueilleux.
C'est ce que sort Lassner à Garance. Enfin,
comment il s'appelle ? Dans Les Enfants du Paradis.
Marcel Errant à Arletty dans une scène d'Enfants du Paradis. Oui, l'orgueil, c'est ça. C'est ce qui pousse à aller plus haut, à aller plus loin. Alors ça peut agacer, mais c'est quelque chose de qui tranche, qui nous rend meilleurs.